Vous écoutez
RMC.
Bon réveil, bon début de week-end. Vous êtes sur RMC, il est 7h.
RMC, la matinale week-end.
Le journal avec vous, Victor Pourchet, bonjour.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous. D'abord Sciences Po Paris, puis des universités de province. Prochaine étape, les lycées. La mobilisation étudiante pour le peuple palestinien va s'étendre après l'appel au blocage de certains de leurs syndicats.
Ces étudiants ont-ils raison de bloquer? C'est la question qu'on vous pose ce matin au 32-16. Débat avec vous à 7h10.
Dans l'actualité également, Châteauroux va rendre hommage à l'un de ses enfants une semaine après sa mort. Une marche blanche est organisée pour Mathis, tué au couteau par un autre adolescent. Et puis la SPA ouvre les portes de ses refuges ce week-end, l'occasion de plonger dans le quotidien de ses bénévoles.
On commence donc avec ces manifestations étudiantes pro-palestiniennes qui pourraient bientôt gagner les lycées.
Parce qu'après Sciences Po Paris, une nouvelle fois évacué hier, l'Institut politique de Lyon fermé administrativement. Après aussi des actions plus ou moins suivies à Saint-Étienne, Dijon, Reims ou encore Poitiers, ce sont des syndicats de lycéens qui ont annoncé des blocages dès lundi. Mobilisation que justifie Gwen Thomas Alves, président de l'Union syndicale lycéenne.
N'importe quel être humain sur Terre doit être concerné par cette question-là. Nous, on considère que justement, enfin, entre les lycées et l'université, il y a juste seulement quelques années qui nous différencient et qu'on doit être en capacité de pouvoir mobiliser le plus de monde possible, comme ce qui s'est passé d'ailleurs en mai 68 avec les collectifs contre la guerre au Vietnam. Et on a des revendications très simples, hein, c'est le cessez-le-feu, la reconnaissance de l'État palestinien. Et comme ça fait depuis 7 mois qu'on en parle et qu'il n'y a pas eu d'action, on va dire, plus radicale comme le blocus, et depuis 7 mois, il ne se passe rien. Et donc, pour nous, c'est extrêmement important qu'on puisse justement imposer un rapport de force au gouvernement pour qu'il puisse prendre les décisions qui vont avec et qui dans le sens de la paix, ce qu'on porte depuis des mois.
Et la paix qui se discutera surtout au Caire, en Égypte aujourd'hui. Le Hamas a annoncé s'y rendre, je cite, « dans un esprit positif pour travailler à un accord de trêve », un projet qu'il accuse Benjamin Netanyahou de saboter. Le premier ministre israélien qui maintient sa volonté d'attaquer la ville de Rafah à Gaza avec ou sans accord.
RMC 7h02, plusieurs milliers de personnes attendues cet après-midi à Châteauroux pour rendre hommage à Matisse.
Lors d'une marche blanche qui passera devant des lieux symboliques, ceux où l'adolescent de 15 ans tué au couteau par un autre du même âge a grandi. Les parents de Mathis sont tenus à organiser eux-mêmes cet hommage, comme l'explique Brice Taillon. Il est adjoint à la mairie de Châteauroux.
On s'attend bien évidemment à énormément de monde, à la hauteur de l'émotion que ce drame a pu susciter. Le dispositif d'encadrement sera dimensionné à la hauteur de cet événement afin que les choses se passent dans le calme. Pour reprendre les termes du papa, dans la bonne humeur. C'est assez difficile de dire ça, mais c'est le souhait. Il n'y aurait rien de pire que de salir la volonté de cette famille et sa dignité par des actions qui ne seraient pas conformes à cet appel. Aujourd'hui, c'est le temps du deuil.
Et le cortège partira à Place Lafayette dans le centre-ville à 15h30. La récupération politique, elle, a déjà eu lieu dans la soirée d'hier. Des militants nationalistes ont déployé des banderoles devant la mairie et lu un texte conclu par « Afghan dehors » en référence à l'origine du jeune suspect mis en examen pour meurtre.
Ils sont 12, de tout âge et de tous les profils, à avoir été jugés coupables d'actes sexuels sur une mineure de 14 ans.
Décision rendue par le tribunal correctionnel de Valenciennes hier. Ces hommes, pour certains condamnés à de la prison ferme, avait rencontré l'adolescente sur Internet ou sur les réseaux sociaux avant d'avoir avec elle des relations parfois tarifées, Julie Bro.
Oui, c'est notamment via le site de discussion en ligne Coco que ces hommes âgés de 26 à 61 ans ont rencontré l'adolescente. Parmi eux, des étudiants, des chômeurs, des agriculteurs ou encore des cadres, pour certains mariés, voire pères de famille. Des hommes qui ne pouvaient pas ignorer l'âge de la jeune fille au moment des faits, a estimé le tribunal. Si deux d'entre eux ont écopé d'une peine de prison avec sursis pour sollicitation et détention d'images pédopornographiques, les 10 autres, eux, sont condamnés jusqu'à 10 mois de prison ferme pour agression sexuelle, des condamnations satisfaisantes, estime maître Grégory Frère, l'avocat de l'adolescente, mais qui n'effaceront jamais ce qu'elle a subi.
Le préjudice de la demoiselle, il est là et malheureusement, c'est un préjudice qui va peut-être s'amplifier avec le temps. Et le suivi psychologique qui a déjà été engagé par la famille de la demoiselle, il s'inscrit dans la durée.
Les 12 hommes ont également reçu une obligation de soins. Ils ne pourront pas travailler au contact de mineurs pendant 5 ans et seront inscrits au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.
Les explications de Julie Bro pour RMC. La politique est le premier revers pour le gouvernement sur le projet de loi agricole. En commission, les députés ont rejeté l'amendement visant à créer des groupements fonciers agricoles, c'est-à-dire c'est-à-dire permettre à des investisseurs de lever de l'argent pour acheter des terres, puis les louer à de nouveaux agriculteurs. La mesure pourra être réintroduite lorsque le texte arrivera à l'Assemblée le 14 mai prochain.
RMC 7h05, le sport et d'abord le football. Une défaite qui fait mal pour Lorient dans la course au maintien.
Les Merlus battus 2-0 à Lens, à 3 points du barragiste désormais. Metz 16e affrontera Rennes à 19h. Le Havre 15e accueillera Strasbourg à 15h. Alors qu'en Ligue 2, Troyes a passé une soirée cauchemardesque hier. Sa descente en National quasiment actée et son match contre Valenciennes arrêté hier soir. Arnaud Valadon, entre jet de fumigène des supporters et réponse de leurs joueurs.
On joue depuis 88 minutes quand le COP de la tribune Champagne du Stade de l'Aube lance des dizaines de fumigènes rouges sur la pelouse. L'arbitre de la rencontre renvoie les joueurs au vestiaire pour 15 minutes. Des forces de l'ordre s'alignent devant la tribune en colère. Le jeu finit par reprendre mais pour seulement 20 secondes. D'autres fumigènes sont alors lancés par les supporters. Et scène surréaliste, deux joueurs troyens renvoient ces mêmes projectiles en direction de la tribune. Théo, supporter troyen, était à quelques mètres du COP.
Il y avait des gamins en pleurs, moi j'avais des gamins qui étaient pas très loin de moi, enfin, c'était assez dramatique. Il y a deux joueurs qui ont renvoyé les fumigènes parce qu'eux étaient en colère. J'ai même vu un membre du staff qui a balancé un ballon qui a atterri dans le visage d'une femme qui était pas très loin de moi.
Le match est définitivement interrompu à un partout. Dans un communiqué, le club condamne les agissements d'une minorité de supporters et explique aussi que la déception n'excuse ni n'atténue ce comportement. L'Estac attend désormais de savoir si elle perdra le match sur tapis vert dans les prochaines semaines.
Arnaud Valadon. Et puis tiens, une idée sortie pour le week-end. Au plus proche des animaux, ces journées portes ouvertes aujourd'hui et demain à la SPA. Vous pouvez aller visiter ces 64 refuges un peu partout en France. Vous serez accueillis par ses salariés ou par l'un des 5000 précieux bénévoles. Reportage de Jean-Wilfried Forquès dans un refuge au Garrigues dans le Tarn.
Coyote est un chien de race Podinco, âgé de 2 ans et demi, à la recherche d'un propriétaire.
Allez Coyote, on va se balader.
C'est Stéphane qui s'occupe de Coyote. Stéphane est bénévole depuis 6 mois. Il passe une dizaine d'heures par semaine au refuge.
Je suis très très heureux ici, je reçois beaucoup d'amour de la part des animaux, je partage des bons moments avec eux et aussi avec les agents.
Parmi les missions confiées aux bénévoles, s'occuper notamment des chats craintifs, explique Céline Marty, ancienne bénévole, désormais salariée.
Quand on est agent animalier, on n'a pas forcément le temps de faire ce travail-là et c'est les bénévoles qui sont en première ligne pour effectuer ce travail-là essentiel pour pouvoir placer les animaux.
40 bénévoles se relaient ici, une vingtaine de plus seraient les bienvenus pour gérer des animaux toujours de plus en plus nombreux. Nathalie Agobé est la responsable du refuge.
On cherche avant tout des bénévoles qui soient engagés. Et quand c'est un engagement de plusieurs années, ça nous permet vraiment d'avancer tous ensemble et dans le même sens surtout.
Ce week-end, le refuge Tarnais propose l'adoption de 88 chiens et 33 chats.
Jean-Wilfried Forquès, alors on réfléchit bien hein, avant d'adopter un animal. C'est d'ailleurs pour ça, sachez-le, qu'en Italie, on a interdit il y a quelques jours le yoga avec chiots. Vous savez, vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux sociaux. C'est la nouvelle mode, c'est du yoga avec des petits chiots pour faire de belles photos Instagram, merde. J'imagine. Et ben des clients trop sous le charme, selon certaines associations, en adopter sans vraiment penser aux conséquences après les séances. C'est aussi, il faut le dire, pour le bien-être de ces chiots qui en sont nés séance sur séance, donc il fallait les préserver.
Ça, c'est un truc qui m'agace.
Ouais. Mais le bien-être.
La maltraitance des animaux, ça,
voilà.
C'est un truc.
Et ben, nos Italiens y ont mis fin. En tout cas,
quand on adopte, c'est à vie. Hein, c'est pas juste pour le plaisir, comme si on avait une peluche, s'il vous plaît.
Sweetie, c'est à vie, Peggy.
Mais évidemment. Attendez, sûr. C'est un compagnon de vie. Quand mais on part en vacances, on s'organise. Quand on prend un animal, on sait qu'il y a des conséquences.
Ouh là là, elle mauvaise humeur.
Mais il y a encore. Moi, je ne comprends pas. On fait beaucoup de prévention. Il y a encore trop de personnes qui adoptent pour faire plaisir aux enfants. Et puis quand il faut partir en vacances, ils savent pas quoi faire de l'animal et puis ils s'en débarrassent. Non, c'est pas comme ça.
Bien-être animal. Vous avez vu que l'Espagne aussi a supprimé le prix national de la tauromachie. Le gouvernement de Pedro Sanchez a supprimé le prix national de la tauromachie en Espagne. Ça veut aussi dire quelque chose. Il y en avait une qui était énervée aussi tout à l'heure, Anaïs Castagna, avec votre étude là sur les fratries. Vous avez eu,
Peggy? Oui.
Vous êtes aîné, cadet, vous avez des frères et sœurs, vous, Victor?
Je suis le deuxième.
Ah, le deuxième.
Donc le moins intelligent selon l'étude, pardon.
Le plus bête. J'ai bien fait de venir.
Ça agace certains de nos auditeurs. Émilie qui nous dit, de toute façon, les plus patients, ce sont les derniers enfants. Donc voilà, ça rattrape un peu.
C'est aussi un peu les chouchous, non?
Astrid qui nous dit, ridicule cette cette oui. étude, quand on est 5 enfants, le dernier, ça veut dire que c'est un imbécile. Et Ulysse qui dit, vous pouvez être intelligent, mais si vous ne savez pas vous en servir, ça ne sert pas à grand-chose que vous soyez l'aîné ou pas. Bon, continuez, parce que ça m'amuse beaucoup, ces petits messages autour des frères et sœurs. C'est toujours passionnant. Il est 7h10, vous êtes sur RMC.
À suivre dans la matinale week-end.
La fête des pompiers aujourd'hui, 250 000 pompiers en France. Alors, quels moyens supplémentaires pour faire face aux nouveaux risques? Le Beauvau de la sécurité civile est ouvert depuis une dizaine de jours. On va en parler avec Jérôme Bonafou de la Fédération nationale des pompiers à 7h40.
À 7h20, c'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. Et Anthony, vous êtes désormais capable de lire dans nos pensées.
En mode télépathe aujourd'hui, mais c'est très sérieux, c'est scientifique. Des chercheurs qui ont mis au point un décodeur de pensée.
Eh bien, dites-moi, d'abord, notre débat du jour. Les étudiants pro-palestiniens ont-ils raison de bloquer leurs établissements? À vos appels au 32-16. C'est à vous de nous dire dans 2 minutes.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
7h13.
RMC.
À vous de nous dire.
Bonjour Kevin Gasser.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu.
Tous les jours une question d'actualité et le débat avec vous au 32-16. La mobilisation étudiante pour la cause palestinienne s'étend en France. Alors ces étudiants ont-ils raison de bloquer leurs établissements?
Oui, c'est la question que nous vous posons ce matin après une semaine de blocage un peu partout en France. Hier matin, la police est intervenue à Sciences Po Paris pour évacuer la centaine de manifestants pro-palestiniens qui bloquaient la prestigieuse école de la capitale, déjà bloquée il y a une semaine à l'initiative du comité Palestine Sciences Po. Et le mouvement s'étend. Le comité revendiquait hier des mobilisations dans 17 instituts d'études politiques et campus universitaires à travers le pays, à Reims, Poitiers, Lyon. Au total, depuis jeudi, selon les services du Premier ministre, ce sont au moins 23 sites qui ont été évacués par les forces de l'ordre.
Alors Kevin, que demandent précisément les manifestants?
Eh bien, ils dénoncent la situation à Gaza et accusent Israël de commettre un génocide des Palestiniens. Ils demandent un cessez-le-feu dans la région. Et pour eux, ces écoles prestigieuses sont des complices d'Israël. Les élèves souhaitent que la direction de Sciences Po condamne clairement les agissements d'Israël à Gaza. Il demande la fin des collaborations de l'école avec toutes les institutions complices de l'oppression systémique du peuple palestinien, selon leurs mots. Concrètement, la fin des partenariats académiques entre Sciences Po et 4 universités israéliennes où les étudiants peuvent partir en échange. Ce à quoi la direction de l'école répond, ce n'est pas à l'ordre du jour.
La mobilisation, on le comprend, Kevin, n'est pas prêt de s'arrêter. Hein.
Oui, et les autorités feront preuve d'une fermeté totale, selon les termes de Matignon. Une présence policière sera maintenue aux abords de Sciences Po pour éviter tout nouveau blocage. Mais le mouvement pourrait encore gagner du terrain dans les lycées. C'est l'appel lancé par l'Union syndicale lycéenne qui souhaite des blocus partout en France, et ce dès lundi.
Alors, à vous de nous dire, est-ce que les étudiants ont raison de bloquer les établissements?
Vous avez répondu non à la consultation sur Twitter à plus de 76%.
Et c'est assez représentatif de vos messages aussi sur l'appli RMC ce matin. Vous continuez à nous écrire et à nous appeler. Le 32-16 est ouvert. Commençons dans la Drôme, à Valence, chez Arnaud. Bonjour Arnaud.
Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour.
Est-ce que vous soutenez les étudiants qui bloquent les établissements, Arnaud?
Non, pas du tout. En plus, c'est une minorité. C'est une minorité qui est dirigée en fait par l'extrême gauche, hein, comme d'hab, hein, et 50-100 étudiants qui embêtent 10 000 autres étudiants de travailler, de faire leur partiel. C'est comme d'hab, quoi. C'est toujours en fait des minorités qui embêtent une majorité.
Quand vous dites, Arnaud, dirigé, ça veut dire que, à vos yeux, les étudiants qui choisissent de bloquer, c'est à la demande de certains partis politiques?
Qui est invité en fait, ou qui vient les supporter directement?
Oui, les députés insoumis, encore au Panthéon hier, ils s'invitent. D'ailleurs, je demanderai tout à l'heure, on aura 2 étudiants qui bloquent en ce moment leur fac, qui seront avec nous à 8h40. Je leur demanderai si ça les dérange ou pas que ces députés insoumis s'invitent à leur mobilisation. Mais vous pensez que c'est carrément ces députés qui leur demandent de bloquer?
Alors, c'est pas ces députés, c'est l'idéologie en fait d'extrême gauche, et en plus, c'est comment dire ça. Leur revendication c'était pour la paix en fait entre la Palestine et Israël, de condamner en fait ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre et de condamner ce qui se passe en Palestine, on pourrait dire ok, d'accord. Mais là, en plus, obliger certains étudiants juifs à ne pas aller en fait au cours, de recracher en fait d'empêcher le débat avec d'autres personnes, au bout d'un moment, c'est de l'extrémisme, en fait, c'est du fascisme. Hein. Donc voilà, et en plus, c'est toujours en fait une minorité de personnes. Et en plus, qui sont ces personnes-là? Je veux dire, Sciences Po à Paris, c'est pas tout le monde qui peut y aller. c'est pas des gens de la classe ouvrière qui peuvent se payer cette université-là.
Sciences Po, a priori, Arnaud, c'est en fonction de vos revenus. Hein. Vous savez, le droit d'entrée, le ticket d'entrée à Sciences Po, l'école a une politique sociale qui est désormais en place depuis plusieurs années. Avant de prendre Pierre, qui est avec nous aussi au 32-16, il y a le message d'Éric qui n'est pas d'accord avec vous, oui. Arnaud. Peggy, lisez-nous le message.
Éric, il dit en fait qu'il est pour et il dit que les étudiants sont en droit, voire en devoir de le faire. Il dit dénoncer un génocide est un devoir humain. Alors, c'est temps non plus de sortir l'argument de l'antisémitisme, mais le but de l'éducation, c'est de développer un esprit critique. Et c'est une injustice qui se passe depuis des dizaines d'années. C'est noble pour les étudiants. Il dit il y a deux poids, deux mesures depuis le 7 octobre, mais une victime est une victime. Et qu'importe sa nationalité ou sa religion, et les étudiants sont en droit. Il espère même que ça va durer, que ça va prendre de l'ampleur.
Ouais. Est-ce que je peux répondre à ça ?
Bah, allez-y.
Alors, en fait, c'est assez marrant parce que ce qui se passe actuellement en fait en RDC avec le massacre qu'il y a en Birmanie avec les Rohingyas, en Chine avec les Ouïghours, pourquoi ils ne le font pas aussi ? Je veux dire, en face, c'est notre population. Mais là, ce qui se passe en Palestine, en face, c'est des Juifs. Je veux dire, c'est, pour parler en fait de globalité, il y a des choses, des massacres qui se passent depuis très longtemps, aux Rohingyas, comme on parlait en Birmanie ou autre, et pourquoi ils ne prennent pas une généralité de demander en fait de stopper.
Donc pour vous, se mobiliser comme ils le font, c'est une forme d'antisémitisme ? Il y a de l'antisémitisme derrière ?
C'est une forme d'antisémitisme, parce qu'en fait, en face, c'est Israël, et en plus, en même temps, c'est les États-Unis.
Pierre est aussi avec nous, depuis les Hauts-de-Seine. Bonjour Pierre.
Bonjour, comment ça va?
Bah, ça va bien Pierre, vous avez même un témoignage à apporter, parce qu'il y a votre fille, c'est ça, qui est à Nanterre?
Exactement.
En fait, Nanterre. Racontez-nous.
Alors moi, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit, M. Arnaud, il a raison sur beaucoup de choses. Mais moi, qui manifeste, il n'y a pas de problème, mais qui bloque pas, qui laisse les autres travailler.
Ouais.
Moi, ma fille est dans les partiels là, en ce moment, et ben elle peut pas. Elle est bloquée. Ils veulent pas la laisser rentrer.
Les partiels mais se tiennent quand même ou pas, ou ils sont annulés?
Bah pour l'instant ça se tient, mais elle a voulu aller en cours hier matin, bah elle a pas pu.
Ouais. Donc, ça veut dire qu'elle sera pénalisée.
Et bah, elle va être pénalisée. Et c'est sa première année en plus. Alors elle va être touchée. Qu'est-ce qui va arriver pour l'année prochaine? Si elle les a pas, c'est mort. On va rajouter 2-3 ans de plus. Et bon, qui manifeste, il y a pas de souci, il y a pas de problème. Qui manifeste pour quoi que ce soit. C'est un peu normal pour beaucoup de choses, mais qui ne bloque pas les enfants qui veulent travailler.
Je poserai aussi la question aux représentants du mouvement à Sciences Po Paris, parce qu'il y a des examens prévus à partir de lundi aussi à Sciences Po. Je lui demanderai s'il s'engage ce matin à ce que ce mouvement ne perturbe pas la bonne tenue des examens. Vous avez raison, Pierre, de souligner que c'est le minimum de laisser ceux qui veulent continuer d'étudier et surtout de passer leurs examens, de pouvoir le faire dans des conditions normales. Merci de vos appels, Pierre et Arnaud.
Merci.
Merci d'écouter RMC le samedi, le dimanche, toute la semaine. On est ensemble jusqu'à 9h30 ce matin. Vous poursuivez sur ce sujet au 32-16. Anthony Morel arrive dans une petite minute.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
7h22.
RMC.
C'est déjà demain.
À l'heure de retrouver l'homme le plus fort du monde, Anthony Morel.
Eh oui, il est là. Bonjour Anthony.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu.
Vous êtes tellement fort que maintenant vous pouvez lire dans nos pensées. Ouais. Mais oui, vous nous parlez de ces chercheurs américains qui ont mis en point une intelligence artificielle capable de lire dans nos pensées.
Oui, absolument. Ce qu'on pourrait appeler un décodeur de pensées, une machine capable de traduire et de retranscrire tout ce qui vous passe par la tête en texte écrit. Expérience incroyable menée par des chercheurs de l'université d'Austin au Texas, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Neuroscience, très sérieuse revue. Hein. Trois volontaires ont passé 16 heures dans un caisson IRM. C'est pas très agréable, mais pendant ces 16 heures, on leur a fait écouter des podcasts, peut-être ceux d'RMC, qui sait, en fonction des mots et des phrases que l'on entend, eh bien les flux sanguins dans le cerveau varient. Et ça, on peut l'analyser. Et c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle avec un algorithme qu'on a entraîné à décoder ces flux sanguins. Tel afflux de sang à tel endroit du cerveau égale telle suite de mots, telle pensée, etc. Ensuite, on les transforme en texte écrit. Autrement dit, rien qu'en observant votre cerveau, eh bien, cette machine est capable de deviner ce que vous entendez et de le retranscrire en temps réel.
Ah, ouais, j'ai eu peur. Je croyais qu'elle était capable de deviner ce que j'étais en train de penser de vous, par exemple.
Non, alors ça va pas jusque-là, mais enfin, on n'en est pas très loin quand même.
On pourra plus rien cacher.
Ouais, non, on pourra plus rien cacher. Non, vous avez raison. Non, mais ça va quand même assez loin. C'est-à-dire que, par exemple, alors c'est pas parfait. Par exemple, une phrase comme "Laissez-moi tranquille" a été retranscrite en "Je t'avais dit de me laisser tranquille". On est quand même pas très très loin au niveau du sens. Et globalement, on arrive à bien résumer ce que vous avez pensé. Et on a demandé aux
volontaires de visionner des films muets et la machine a réussi à retranscrire ce qui se passait dans les films. Donc ça va quand même très très loin.
C'est complètement fou. Mais alors Anthony, concrètement ça sert à quoi en fait?
Les premières applications, elles seront médicales pour des personnes qui sont paralysées, qui ont subi un AVC, qui ont perdu l'usage de la parole, ceux qui ont un handicap lourd. Un appareil pourrait traduire les pensées en texte écrit. Ce serait un outil de communication formidable, à condition qu'on puisse l'améliorer quand même, parce que pour l'instant il faut quand même être enfermé pendant des heures dans un IRM, mais on peut imaginer que d'ici quelques années tout ça se miniaturise et qu'on puisse, avec un patch posé sur la tête, oui, et bien décoder les ondes cérébrales. Il faut noter que c'est loin d'être la première expérience dans ce domaine. On pense aussi au projet Neuralink d'Elon Musk qui vise carrément à implanter des puces dans le cerveau pour leur permettre de communiquer avec un écran.
Peur, d'ailleurs.
Absolument. À la fois de la fascination et de la peur. Vous avez raison.
Ça va poser plein de questions, parce que si on lit dans mes pensées sans que je sois d'accord.
Oui, alors là c'est un peu plus compliqué. Puis il y a des applications et des dérives auxquelles on peut penser dans le domaine militaire, par exemple. Imaginez, pour découvrir les secrets de l'ennemi, pour interroger un prisonnier politique. Là on est carrément dans des films de science-fiction. Alors quand même, sur l'idée qu'on pourrait lire dans vos pensées sans votre consentement, ça ne fonctionnera pas. En tout cas pour l'instant. C'est-à-dire qu'il est assez facile de saboter l'expérience en pensant à n'importe quoi, en comptant à l'envers, en faisant des listes de mots qui n'ont ni queue ni tête. Oui. Là l'algorithme est complètement...
On peut contourner
perdu.
Comme le détecteur de mensonges, quoi, pour les espions.
Exactement. Alors, ça c'est pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il en sera dans quelques années, mais en tout cas voilà, il y a encore énormément de progrès dans ce domaine des décodeurs de pensée.
Ouais, mais moi je suis pas pressé, hein. En tout cas merci Anthony, c'est déjà demain, à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
7h25.
RMC, la matinale week-end.
Serroussi n'a pas tout compris.
Et oui, c'est l'heure pour vous de bien commencer le week-end avec Vincent Serroussi.
Et cette semaine, il n'a pas compris l'intérêt grandissant des Français pour les croisières.
Les croisières, mais quel enfer. Croisière. C'est plus un EHPAD sur mer, vous avez raison. Et non, mais ça peut être positif en vrai. Tu veux te débarrasser de tes parents, tu les mets sur un Concordia pendant 9 mois, eux ils seront reconnaissants et au moins t'as l'excuse de pas pouvoir leur rendre visite, c'est cadeau quoi. Non, moi jamais je monte là-dedans. Être enfermé avec 3000 Américains qui te disent elle est où la Tour Eiffel quand tu fais une escale à Rome, jamais je monte là-dedans, jamais.
Oh, vous avez jamais fait de croisière?
Si, une fois. Ah. Mais j'étais très déçu, j'ai cherché Leonardo DiCaprio sur tout le bateau. Jack! Où es-tu, Jack? Je t'aime, Jack, oui! Mais je l'ai pas trouvé. La seule personne que j'ai trouvée, c'est celle qui joue Rose à 100 ans dans Titanic. Catastrophique. D'ailleurs, il y a des indices, hein, dans Titanic, que les croisières, c'est horrible. Hein. Vous regardez la première scène du film. Rose, elle essaye de se jeter à la mer. Voilà, pour vous dire à quel point on se fait chier dans les croisières. Non, mais c'est vrai, mais bien sûr. D'ailleurs, la vraie histoire du Titanic, moi, je pense que c'est juste tout le monde qui s'est jeté à l'eau. Hein. Il n'y a pas eu d'iceberg. Juste, ils n'en pouvaient plus, quoi. C'est tout. Donc, faites pas de croisière, voilà.
Bon, comme ça, c'est clair. J'ai l'impression que vous êtes assez d'accord.
Ah, non, mais moi, je suis pas du tout croisière.
C'est vrai?
Non, mais laissez-moi sur terre.
Oh. Ah, c'est l'eau qui vous fait peur, c'est le grand large.
Non, mais l'eau, et puis, je préfère prendre l'avion à la rigueur.
Mais même si,
hein,
regardez, je sais pas, vous pouvez avoir une histoire comme dans Titanic. Ça, vous pouvez trouver
non, ça c'est dans
amour.
Les films, Mathieu. C'est non, ça c'est non, dans les films. Arrêtez. Si c'est pour qu'il meure à la fin, en plus, super.
Eh ben, on ira au camping.
Oh, bah, voilà.
Avec vous, Peggy, pour l'été. Restez bien avec nous. Les infos de 7h30 arrivent. Allez, nous sommes le samedi 4 mai. Excellent réveil à vous.
Vous êtes sur RMC. Il est 7h30.
RMC, la matinale week-end.
Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Anaïs Castagna, bonjour.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. À la une ce matin, la marche blanche en hommage à Matisse. Cette marche blanche aura lieu cet après-midi à Châteauroux. La mobilisation de la jeunesse pour soutenir Gaza va-t-elle s'élargir? L'Union syndicale lycéenne appelle les lycéens à bloquer leurs établissements dès lundi. Et puis Pogacar, grand favori du Tour d'Italie qui commence aujourd'hui.
Une semaine après la mort du jeune Matisse, une marche blanche est donc organisée cet après-midi à Châteauroux.
Oui, le cortège partira à Place Lafayette dans le centre-ville à 15h30 et passera par des endroits chers à Matisse, cet adolescent de 15 ans mort après avoir reçu plusieurs coups de couteau. C'était samedi dernier à Châteauroux. Reportage Ameline Lafchin.
C'est son ami Lucas qui est à l'initiative de cette marche.
C'est pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. On s'est vite entendu parce qu'on avait les mêmes passions.
Le foot?
Exactement. Et le Paris Saint-Germain.
Avec d'autres copains, ils ont d'ailleurs signé un t-shirt du PSG floqué à son nom. Et parmi ses amis présents dans le cortège, Thomas.
Tous mes potes, on va tous y aller. C'est obligé. C'était notre collègue quand même. Et tous les jours, on se voyait. Je me dis, là, on doit se rejoindre entre potes. Il manque un pote.
Depuis une semaine, dans les rues de Châteauroux, le prénom de Matisse est sur toutes les lèvres. Un drame qui a bouleversé le quotidien des habitants, comme celui de Laïla, qui sera également présente pour un dernier adieu.
Par solidarité aussi. On est maman et on comprend un peu les parents, ce qu'ils vivent.
Dans le centre-ville, sur les vitrines des commerces, des affiches de loutres en hommage à Matisse, surnommé ainsi par son père. Cet après-midi, beaucoup d'entre eux baisseront le rideau dès 15h, comme Pierre, restaurateur.
Par respect, par soutien pour Christophe et Cécile, voilà, les parents de Mathis. Châteauroux, c'est un grand village, tout le monde se connaît, on peut pas faire grand chose, c'est vrai, mais voilà, c'est notre marque de soutien.
À la demande de la famille, cet après-midi, les participants sont appelés à défiler en blanc ou en rose, une couleur appréciée par l'adolescent.
Les parents de Mathis qui appellent au calme, ils demandent à ce que la marche ne soit pas récupérée politiquement.
Après les étudiants, autour des lycéens de se mobiliser pour soutenir Gaza.
C'est en tout cas ce que souhaite l'Union syndicale lycéenne. Elle appelle les lycéens français à bloquer leurs établissements dès lundi, alors que la mobilisation des étudiants prend de l'ampleur dans le pays. Hier, des dizaines de manifestants ont notamment bloqué l'école supérieure de journalisme de Lille. Un blocage que regrette Pierre Savary, directeur de l'établissement.
L'école, l'ESJ, n'avait pas été bloquée depuis très très longtemps. C'est un blocage qu'on a dénoncé d'abord parce que c'est l'impossibilité d'enseignement pour des étudiants et un droit à l'enseignement qui est entravé. Mais c'est aussi surtout l'impossibilité d'être dans du débat, d'être dans du dialogue, de la réflexion, de la prise de recul. Ça passe par de l'échange, ça passe par du débat. Parfois, il peut être vif. Le fait de bloquer nous a empêchés de faire cela. Alors, c'est quelque chose qu'on va refaire pour pouvoir essayer d'avancer de manière constructive et apaisé sur ce sujet.
À retenir également ce matin, Bruno Le Maire impliqué dans un accident de la route hier soir à Paris. Le ministre de l'économie a percuté un cycliste avec son véhicule personnel. Le cycliste a été transporté à l'hôpital Cochin en urgence relative. Quant à savoir ce qui s'est passé, eh bien, le cycliste aurait grillé un feu rouge. Bruno Le Maire a été soumis à des tests de dépistage de drogue et d'alcoolémie, tests qui se sont révélés négatifs.
On en vient à cette farine, de la farine bio à l'origine d'hallucinations.
Près de 50 personnes intoxiquées, dont 5 enfants, par des lots de farine de blé noir de la marque JP Clotho à cause de la présence du datura, plante affectant le système nerveux. C'est l'agence de santé régionale de Bretagne qui a donné l'alerte après avoir reçu de nombreux signalements, Johanna Chabas.
49 cas détectés en seulement 2 semaines, des intoxications parfois tellement fortes que 2 personnes ont dû être hospitalisées. 3 autres malades sont allés aux urgences, mais seulement quelques heures sous surveillance. La majorité des intoxiqués sont en Ille-et-Vilaine. Certains sont dans le Morbihan ou encore dans les Côtes d'Armor. Ils avaient tous ingéré de la farine de blé noir bio de la marque JP Clotho, une farine contaminée au datura. C'est une plante très commune qui pousse dans les champs, sauf qu'elle contient une substance qui affecte le système nerveux. Elle peut déclencher de nombreux symptômes comme des troubles de la vue, de la tachycardie ou encore des hallucinations. Pour l'instant, on ne sait pas comment la plante a contaminé cette farine, mais en attendant, les autorités demandent aux clients de ne surtout pas consommer ces produits.
Le foot, Lens se rapproche de l'Europe après son succès 2-0 contre l'Orient hier lors de la 32e journée de Ligue 1. Pour les Bretons, c'est la Ligue 2 qui se profile. Les Lorientais sont avant-derniers avec 3 points de retard sur le Havre et sur Metz qui joue aujourd'hui. Les Havrais reçoivent Strasbourg à 15h, à 17h Monaco-Clermont, Metz-Rennes 19h et Brest-Nantes à 21h. En Ligue 2, hier on jouait la 36e journée. Quevilly-Rouen et Concarneau sont officiellement relégués en National. Le match entre Troyes et Valenciennes a été arrêté par des jets de fumigène sur la pelouse de la part de supporters troyens. Certains joueurs de Troyes ont d'ailleurs renvoyé les fumigènes dans les tribunes. Le club troyen au bord de la relégation en national risque gros à la fin de cette 36e journée de Ligue 2 aujourd'hui. Le leader Auxerre reçoit le Paris FC à 15h et Guingamp Saint-Etienne à 19h.
Monaco s'offre une manche décisive en quart de finale de l'Euroleague de basket.
Les Monégasques s'imposent à Istanbul dans la salle du Fenerbahçe 65 à 62. Le match s'est terminé dans la confusion. Certains fans turcs ont voulu entrer sur le parquet à la fin du match. Le match décisif aura lieu mercredi prochain à Monaco.
Et puis top départ aujourd'hui du Tour d'Italie.
L'attraction, c'est Pogacar. La star slovène du cyclisme participe à son premier Giro avec pour objectif et bien de s'imposer. Il sera le grand favori de cette 107e édition, Kevin Morand.
Oui, en l'absence de Primoz Roglic, vainqueur l'an dernier, il y a clairement au départ Tadej Pogacar et les autres. Concentré sur la grande boucle pendant 4 ans pour 2 succès, le Slovène veut maintenant conquérir l'Italie, une course que je rêve de faire depuis longtemps. Le moment est venu de me lancer, a dit cette semaine Pogacar, récent vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Les outsiders pour un triomphe à Rome se nomment Geraint Thomas, deuxième l'an dernier, Daniel Felipe Martinez ou Ben O'Connor, le leader de l'équipe française décathlon âgé de Zer. Romain Bardet vise aussi une place au général. La formation Visma-Liseberg mise sur son jeune leader, Kian Heuytebroeks, pour tenter de déjouer les plans de Tadej Pogacar, qui rêve d'endosser le maillot rose, puis le jaune, cet été. Un doublé réalisé pour la dernière fois par Marco Pantani en 1998.
Et puis on est le 4 mai aujourd'hui en anglais. May the Force be with you.
Mais
oui, journée mondiale de Star Wars, saga qui compte énormément de fans. Nombreux hier soir au Grand Rex à Paris, où un concert symphonique sur le thème de Star Wars était donné justement. Solène Gardré est allée sur place, écoutez.
Ils donnent de la voix et de l'énergie pour honorer la saga dont ils sont fans, en venant par exemple déguisés en leur personnage préféré.
Moi je suis en Rex, on s'est commandé nos costumes, moi je les ai fabriqués moi-même du coup. Ça m'a pris 2 jours.
J'ai un casque de clown avec un micro qui fait des voix particulières.
Certains ont fait des heures de route pour venir au concert.
Parce que c'est les 25 ans de La Menace Fantôme. Moi j'ai grandi avec la prélogie. Donc là c'est un petit peu l'anniversaire de moi qui deviens fan de Star Wars. Premier bouleversement devant La Revanche des Sith. Et puis ensuite j'ai découvert le reste. Et puis une passion qui ne s'en va jamais.
Avec des thèmes dans lesquels les plus grands comme les plus petits se reconnaissent encore.
J'aime bien parce que y a Leia qui est une héroïne assez forte. Généralement quand il y en a, elles sont souvent accompagnées du héros qui est quand même beaucoup plus fort. Alors que là elle a pas trop besoin de l'aide de Luke, Leia.
C'est quelque chose qui résonne en moi, leur histoire. Celui dans lequel je me retrouve le plus, c'est Kylo Ren, Ben Solo. De se sentir à sa place nulle part, c'est quelque chose qui me parle.
Un succès tel qu'aujourd'hui, près de 250 salles vont diffuser Star Wars dans toute la France.
Alors, fan?
Pas fan,
c'est qui on sait. Toujours pas Mathieu?
Non, mais on demandait.
Venez nous convaincre, hein.
Je sais pas qui a vu Star Wars, qui est réellement fan.
Vous rigolez ou quoi?
Non, mais
il y a une minorité de personnes qui n'ont pas vu et nous sommes là. Kevin qui nous écoute, qui réalise, j'imagine qu'il a vu, oui ou non?
Il nous dit oui. Non, j'en viens à me demander si c'est pas surcoté ce Star Wars.
Mais non, arrêtez.
Alors moi je suis pas Star Wars, mais je suis un mythe.
Il ose. Non, mais.
Vous avez pas peur de vous faire.
Il a peur de rien, Mathieu Roux. Il est comme ça.
J'ai le pire solide.
Oui, bien sûr.
Il y a un truc qui vous a énervé, vous, tout à l'heure, l'étude sur les fratries, l'aîné est le plus intelligent.
Ouais, un peu.
En gros, votre frère est plus intelligent que vous, Anaïs Castagna. Wow.
La réalité.
Ouais. Mais sachez que non, là, pour évidemment. Le coup, nos auditeurs vous soutiennent.
C'est
Anaïs,
vrai.
Oui, Émilie nous dit les plus patients, ce sont les enfants d'après, les derniers enfants.
Ouais.
Déjà, ça, c'est un point pour vous.
D'accord. D'accord,
Astrid qui nous dit que quand on est 5, ça veut dire quoi? Que le tout dernier est beaucoup plus bête que le premier. C'est complètement débile, cette étude.
Mais non, mais justement, il doit se débrouiller. Il devient autonome, donc il est plus intelligent. Parce que, voilà.
Ouais. Ulysse,
le premier, il est totalement insisté. Quoi. Ça va pas.
Ulysse qui nous dit on peut être intelligent si on sait pas s'en servir. De toute façon, ça sert à rien.
Oui, voilà.
Et puis Stéphane, il a 3 neveux. Le premier est bête. Oh. Le deuxième, déprimant.
C'est pas vrai.
Le troisième, discret.
Voilà. Okay. Excellent. Et sympa, tonton.
On va continuer de se raconter nos histoires de famille, c'est savoureux.
Non, mais j'embrasse mon frère, qui est peut-être plus intelligent que moi.
Qui s'appelle ?
Mathieu.
Il est 7h39 minutes.
À suivre dans la matinale week-end.
La question, le débat avec vous aujourd'hui, les étudiants ont-ils raison de bloquer leurs établissements ? Vous poursuivez vos appels au 32-16, vos réactions tout à l'heure et tout au long de la matinée.
À 7h50, c'est Racontez-nous avec vous, Nicolas Poincaré. On casse la gueule ce matin.
Oui, je vous raconte l'histoire du président biélorusse Loukachenko qui veut que ses athlètes cassent la gueule à leurs adversaires pendant les Jeux de Paris.
Tout un programme.
Super.
Et puis après la SNCF, la RATP, les aiguilleurs du ciel, les pompiers réclament eux aussi une prime Jeux Olympiques. Ils veulent se faire entendre à l'occasion de la fête internationale des pompiers aujourd'hui. Jérôme Bonafou de la Fédération des pompiers de France est notre invité dans 2 minutes sur RMC.
RMC, 6h30, 9h30. La matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Bon réveil à l'écoute d'RMC, il est 7h43.
RMC.
L'invité du jour.
Et l'invité du jour, c'est vous, Jérôme Bonafou, lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers de l'Hérault, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.
Bonjour.
Bonjour.
C'est aujourd'hui la fête internationale des pompiers. 250 000 en France, hein, 43 000 professionnels, 198 000 volontaires, 13 000 militaires. Est-ce que c'est suffisant face aux nouveaux risques engendrés par le réchauffement, le dérèglement climatique? Jérôme Bonafou, vous êtes avec nous? Allô, allô. Nous vous avons.
Alors, c'est jamais suffisant parce que. Oui, vous m'entendez? Allô?
Nous vous attendons, allô Jérôme Bonafou, c'est à vous.
Allô? Oui. Je vous disais, c'est jamais suffisant parce que donc on voit depuis un certain nombre d'années que donc par rapport aux conséquences du réchauffement climatique, on a nos interventions qui évoluent, on a de nouvelles missions qui arrivent. Il faut qu'à chaque fois on consolide nos effectifs, notamment avec donc les feux de forêt qui maintenant ont largement dépassé le périmètre du sud de la France. C'est pour ça que donc partout en France, les sapeurs-pompiers recrutent à la fois des sapeurs-pompiers volontaires au travers de l'engagement citoyen, donc les sapeurs-pompiers professionnels.
Sapeurs-pompiers volontaires, au menu d'ailleurs du Beauvau de la sécurité qui s'est ouvert il y a une dizaine de jours avec cette question. Est-ce qu'il faut une reconnaissance des volontaires, une rémunération des sapeurs-pompiers volontaires? Est-ce que ça pourrait être une des solutions?
Alors, la rémunération, elle existe parce que les sapeurs-pompiers volontaires, donc comme je disais, c'est un engagement citoyen et ils sont rémunérés au travers d'une indemnité lorsqu'ils montent des astreintes, voire des gardes, ou lorsqu'ils font donc des missions opérationnelles. Ce qui est réclamé depuis un certain nombre d'années, c'est surtout de prendre en compte le nombre d'engagements pour faire... on va dire un bonus pour la retraite, parce que lorsqu'on s'est engagé pendant 20-30 ans pour porter secours auprès de la population, donc on peut envisager qu'on gagne des trimestres de retraite, c'est ça l'engagement. Mais vous savez, le Beauvau de la sécurité civile, parce que la sécurité civile, c'est pas que les sapeurs-pompiers c'est une branche, c'est surtout que, comme je le disais à l'introduction, on est sur une évolution de nos missions, la société change, les risques évoluent, le matériel évolue aussi avec l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies telles que les drones. Donc le Beauvau de la sécurité civile est fait en fait pour améliorer notre système de sécurité civile de demain. Et je rappelle que le système de sécurité civile en France, il faut en être fier, et est un des modèles les plus performants au monde, hein. Donc c'est pour ça que l'État veut le consolider et a mis tous les partenaires autour de la table, que ça soit le représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, mais aussi les partenaires sociaux, et puis tous les acteurs de la sécurité civile, que sont notamment les associations de sécurité civile et nos collègues militaires de la sécurité civile.
Vous avez une autre revendication qui est d'ailleurs au cœur d'une journée de grève nationale annoncée pour le 16 mai, que soit reconnu le lien entre exposition à la fumée et cancer. Expliquez-nous.
Alors ça, c'est une revendication qui est portée par les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats, hein, chez les pompiers, puisque nous, la Fédération nationale, on n'est pas syndicat. Mais effectivement, la France, dans ce domaine-là, est en retard. Si on se compare par rapport aux pays anglo-saxons, il y a depuis très longtemps qu'ils ont mis des mesures justement pour limiter donc ces risques, puisqu'on sait que nos sapeurs-pompiers sont exposés aux fumées, vous le savez comme tous, puisque notre mission première, c'est d'éteindre les incendies. Mais surtout depuis un certain nombre d'années, et je crois que le cas de Lubrizol en a été est un facteur très convaincant, c'est que on a maintenant les batteries, on a de plus en plus des voitures électriques. On sait que les matériaux qui sont utilisés pour construire ces batteries peuvent être dangereux pour la santé. Et donc il faut que, en matière de toxicité sur les incendies, on évolue. Par exemple, il faudrait que et une étude épidémiologique qu'on n'a pas encore chez les sapeurs-pompiers pour qu'on puisse avancer là-dessus. Alors, les départements ont mis en place des mesures pour limiter les sapeurs-pompiers d'être exposés à ce qu'on appelle les particules fines, parce que c'est ce qui est le plus dangereux. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait un cadre juridique national pour tous les départements pour qu'on puisse effectivement appliquer le vieil adage qu'on connaît tous chez les sapeurs-pompiers, qui est mieux vaut prévenir que guérir.
Et c'est sûr, et c'est aussi un adage qui vaut particulièrement en été. Vous parliez de votre première mission, éteindre les incendies, sauf que cet été, il y aura aussi une mission capitale, assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Ça tombe en même temps, Jérôme Bonafou. Vous serez assez nombreux?
Alors oui, parce que l'organisation qui va être mise en place, elle consiste à prélever des effectifs sur l'ensemble des départements. Donc si je vous prends l'exemple du département là où moi j'exerce, dans le département de l'Hérault, c'est à peu près une vingtaine de sapeurs-pompiers qui seront envoyés toutes les semaines, soit sur Marseille, soit sur Paris. Bon, sur un effectif, nous on est près de 5000 pompiers, vous voyez que 20 sapeurs-pompiers, c'est tout à fait gérable. Simplement, il faut le planifier et l'organiser. Mais des mesures ont été prises, hein, comme nos collègues policiers et gendarmes, où on a, notamment pour les pompiers professionnels, eh bien, on va limiter le nombre de jours de congé.
Oui. Mais on le fait. Vous aurez d'ailleurs, pour les professionnels, une prime Jeux Olympiques, comme pour d'autres corps de métier. Est-ce qu'il faut que cette prime s'applique à tous les pompiers qui vont intervenir pendant les Jeux Olympiques, y compris les pompiers qui ne seraient pas professionnels?
Alors, écoutez, ça a été le cas. Si on prend l'exemple, le gouvernement avait su trouver des moyens quand il y a eu le Covid, puisque les sapeurs-pompiers, vous savez, ont été en première ligne pour le Covid. Donc, je pense que il y a des discussions qui sont en cours au niveau national et que on devrait pouvoir arriver. Puis, il est tout à fait entendable que les sapeurs-pompiers soient gérés de la même manière que les policiers et les gendarmes, parce que. Ils vont contribuer, comme ils le font à chaque fois, à garantir la sécurité, ce coup-ci civil et non pas public sur le territoire national. Et il est normal, au regard de la mobilisation, parce que ça sera à peu près une semaine de mobilisation, qu'ils soient défrayés, quoi, je veux dire. Mais je vois pas comment le gouvernement, là-dessus, ne pourrait pas y arriver. La difficulté, c'est que vous savez que les sapeurs-pompiers, en France, on est des fonctionnaires publics territoriaux, nous ne sommes pas des fonctionnaires publics d'État. Donc, si c'est facile de décréter pour la police et la gendarmerie, puisque ce sont des employés de l'État, ça l'est beaucoup moins pour nous. En tout cas, je parlais ça par pompiers professionnels des SDIS.
C'est au niveau des départements.
Les départements qui sont amenés, voilà, à financer. Donc, il y a des discussions actuellement en cours.
Merci beaucoup à vous, Jérôme Bonafou, lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers dans le département de l'Hérault, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Merci d'avoir été avec nous en cette fête internationale des pompiers aujourd'hui. Il est 8h10, vous êtes sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
Un peu de Madonna pour vous réveiller ce matin. Pourquoi ? Parce qu'un concert gratuit de Madonna, le plus énorme de sa carrière, c'est ce soir. Et c'est déjà dans le bonus RMC, dans deux minutes.
Mais d'abord,
racontez-nous.
C'est l'heure de retrouver Nicolas Poincaré.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Ce matin, vous nous racontez l'histoire du président biélorusse qui fait de nouveau parler de lui.
Oui, il s'appelle Alexandre Loukachenko. Il a encouragé les athlètes de son pays qui participeront aux Jeux Olympiques de Paris à casser la gueule de leurs adversaires.
Et tiens.
Casse-leur la gueule, a-t-il dit, pour montrer ta colère et pour montrer que tu es un vrai Biélorusse, autrement dit, pas une mauviette. Ce qui devrait provoquer la colère de ces athlètes, selon leur président, c'est que comme les Russes, les Biélorusses ne pourront participer aux Jeux Olympiques que sous bannière neutre, ce qui veut dire qu'ils ne porteront pas les couleurs de leur pays, qu'en cas de victoire, l'hymne biélorusse ne sera pas joué, qu'ils ne participeront pas aux épreuves des sports collectifs et qu'ils ne participeront pas au défilé des équipes sur la scène lors de la cérémonie d'ouverture. C'est la décision du CIO, prise parce que la Biélorussie a été complice de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine il y a 2 ans. En février 2022, les chars qui ont attaqué Kiev étaient partis de ce pays.
Alors ce président, Nicolas, est un habitué des coups d'éclat.
Oui, Alexandre Loukachenko est généralement présenté comme le dernier dictateur communiste en Europe. Il est au pouvoir depuis 1994. Sa réélection en 2020 a été extrêmement contestée. Sa principale rivale avait dû fuir le pays pour ne pas être arrêtée, ce qui avait entraîné une vague de manifestations réprimées violemment. Le président s'était alors montré avec un gilet pare-balles et une kalachnikov à la main dans les rues. Il est aussi l'auteur d'un véritable kidnapping en plein vol. Un jeune opposant se trouvait à bord d'un vol Ryanair entre Athènes et Vilnius, un vol qui survolait la Biélorussie. Et Loukachenko avait fait envoyer des avions de chasse pour détourner le vol civil et l'obliger à se poser à Minsk pour pouvoir arrêter cet opposant. Tout cela a fait de lui un homme isolé. Il est interdit de séjour en Europe et sous le coup de sanctions. Il n'a qu'un ami sur la scène internationale, devinez qui ? C'est son patron, Vladimir Poutine.
Merci Nicolas, racontez-nous, à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
8h05.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Avec Madonna, Peggy Broche, qui clôture sa tournée aujourd'hui.
Eh oui, clap de fin à Rio de Janeiro sur la plage de Copacabana. Aujourd'hui, pour le grand concert de sa carrière, certainement le plus grand concert de Madonna, qui se produira gratuitement pour le final de sa tournée Celebration Tour. Et ses 40 ans de succès. Alors, la chanteuse américaine de 65 ans est arrivée lundi à Rio, après avoir parcouru l'Europe, les États-Unis et le Mexique, plus de 80 dates. Et alors, comme vous pouvez l'imaginer, côté logistique, c'est un véritable barnum. Écoutez bien, 3 avions, plus de 270 tonnes de matériel. Non. Rien que ça. Une scène de 800 mètres carrés. C'est impressionnant. En tout cas, le show s'annonce comme le plus gigantesque de sa carrière. On attend jusqu'à 1,5 million de spectateurs. Vous savez, c'est un peu à l'image en fait du jour de l'an sur la plage de Copacabana. Oui. Il y a énormément de monde. 4500 agents sont mobilisés pour assurer la sécurité, aidés de drones, de caméras à reconnaissance faciale. Et selon la mairie de Rio de Janeiro, écoutez bien, le concert générera 53 millions d'euros, soit 30 fois plus que ce qu'ils ont investi. Donc c'est plutôt un jackpot, hein, c'est bien pensé.
Même si c'est gratuit.
Même si c'est gratuit, ben, il y a tout ce qu'il y a autour, hein, tout le merchandising autour. Plus de 150 000 spectateurs viendront spécialement de l'étranger. Et c'est l'effervescence depuis plusieurs jours en ce moment à Rio. Et dans une boutique qui s'appelle la boutique Lix, on vend des verres, des éventails, des chapeaux à l'effigie donc de Madonna, ou encore le célèbre corset conique, vous savez, inventé par Jean-Paul Gaultier il y a 30 ans. Rendez-vous ce soir sur la plage de Copacabana. Alors ce sera une autre ambiance que l'ambiance brésilienne, mais la pop star sera en concert pour son concert certainement le plus grand qu'elle n'ait jamais donné, concert mémorable, et c'est le dernier de sa tournée.
Et vous savez ce qui est encore moins cher qu'un concert gratuit de Madonna ?
Dites-nous.
Eh ben Madonna a écouté sur RMC.
Eh ben voilà.
Allez, quelques secondes. Bon réveil à vous les infos de 8h dans un instant.
La matinale week-end.